Après avoir étudié l'avènement de Samsung Luna la semaine dernière, nous allons nous pencher aujourd'hui sur les 7 premières années de son règne. Nous verrons dans un premier temps que, paradoxalement, cette période est assez mal connue. Bien sûr, les archives, que ce soit celles des grandes familles ou des grands organismes, contiennent d'assez nombreux textes, mais il faut avouer que ceci n'offre guère d'informations utiles pour reconstituer le règne de manière précise. Cette période semble avoir été marquée par une crise économique que le roi a essayé de régler en proclamant un deuxième édit de Micharoum, ce que nous verrons dans un deuxième temps. Pourquoi les premières années du règne de Samsu-iluna sont-elles mal connues ? Eh bien, je pense que la réponse est une coïncidence entre ce que j'appellerais les conditions structurelles de nos connaissances, le hasard des fouilles, mais aussi, sans doute, la réalité historique. Du point de vue des sources, nous sommes handicapés du fait que nous n'avons pas de correspondance de Samsu-iluna équivalente à ce que l'on possède pour le dernier tiers du règne de Hammurabi. Pour Hammurabi, en effet, nous avons quelques lettres retrouvées dans le palais de Marie, mais surtout les quelques 200 lettres retrouvées à Larsa et qui datent de la période postérieure à l'annexion babylonienne. La moitié adressée au gouverneur Sinidinam et l'autre moitié au responsable du domaine royal Shamash-Razir. Et on n'a rien de tel pour Samsu-iluna, sans qu'on sache exactement pourquoi. Alors, la seule explication que j'ai à vous proposer, c'est que Samsu-iluna a remplacé Sinidinam par un autre gouverneur, a remplacé Shamash-Razir par un autre responsable du domaine royal, que ces personnes gardaient leurs archives à domicile, et troisièmement, que les fouilleurs clandestins ne sont pas tombés sur ces maisons-là. Voilà. Alors, vous pourrez trouver que ça fait beaucoup de conditions, mais je ne vois pas comment expliquer autrement la situation. Et je dirais que, à l'inverse, ce qu'il nous faut retenir de cela, c'est la chance énorme qui est la nôtre d'en savoir davantage sur la fin du règne de Hammurabi. Le dernier aspect, c'est en ce qui concerne la réalité historique, eh bien, on peut se demander si on doit retenir le proverbe « les gens heureux n'ont pas d'histoire ». Il est de fait que les périodes de révolte intérieure ou de guerre extérieure sont toujours l'occasion pour l'historien d'en savoir davantage, et nous le verrons la semaine prochaine lorsque nous arriverons aux années 8 à 10 du règne de Samsu-iluna. Alors, ces préliminaires étant faits, je voudrais donc successivement tenter de décrire la composition de l'entourage de Samsu-iluna pendant cette période, et puis commenter les noms de ces 8 premières années de règne pour voir ce qu'on peut en tirer du point de vue de la représentation générale de cette période. L'entourage du roi comportait à la fois sa famille et les hauts dignitaires du royaume, ce qu'on appelle souvent dans les textes de l'époque ses grands serviteurs. Pour ce qui est de la famille, le dossier va être vite examiné, il est vide. Aucune idée de qui furent la mère, les épouses ou les enfants de Samsu-iluna. Absolument aucune information. Et ça n'est pas très étonnant, puisque pour avoir ce genre d'information, il faudrait que nous possédions les archives du palais de Babylone. Et j'ai déjà expliqué lors du premier cours que nous n'avons rien de ce genre. On a quand même un texte qui nous donne une idée de l'entourage de Samsu-iluna en ce qui concerne les grands dignitaires. Il s'agit d'un document par lequel le roi vendit un champ de 185 arpents à une religieuse Naditoum de Sippar pour la somme non négligeable de 10 mines d'argent. Alors, la datation du texte n'est pas tout à fait assurée, mais c'est pratiquement sûr qu'il s'agit de l'an 8 de Samsu-iluna. Et on sait que, de manière habituelle, dans un contrat de vente, les témoins se répartissaient entre proches du vendeur et proches de l'acheteur, de manière que, en cas de conflit, il y ait évidemment une représentation équilibrée. Et ce texte ne fait pas exception, ce qui, pour nous, a l'avantage considérable de nous livrer une liste très intéressante des plus hauts dignitaires du royaume. On trouve en tête de ses témoins, donc Marduk Mushalim, qui porte le titre de Shapir Redé, une sorte de généralissime, donc un haut militaire. Il est suivi par un personnage nommé Sumu Hammu. Contrairement aux autres témoins, son nom n'est pas suivi d'un titre, mais de sa qualité de fils de Sumu Ditana. Et Martin Stoll, qui s'est intéressé à ce texte, a estimé que ce Sumu Ditana était vraisemblablement le fils de Hammurabi, mentionné dans les textes de Marie, auxquels j'ai fait allusion la fois précédente, et de la sorte, donc, ce Sumu Hammu pourrait avoir été un neveu du roi Samsu-Iluna. Donc j'avais dit qu'on ne savait rien sur sa famille. Dans ma liste, je n'avais pas mentionné les neveux, mais enfin, c'est tout ce qu'on peut en tirer. Vient ensuite un personnage qui s'appelle Nabiyum Malik et qui porte le titre de Chandabakoum, donc ce qu'on peut traduire mutatis mutandis comme le ministre de l'économie. On a ensuite un personnage dont le nom n'est suivi d'aucun titre, mais qui a un nom sumérien tout à fait éloquent, Namtilani Idou, ce qui signifie « sa vie est bonne ». Et dans ce genre de nom propre, le possessif ne renvoie pas à la personne qui porte le nom, mais renvoie au souverain. C'est la vie du roi qui est bonne. Et on a des exemples qui nous montrent qu'un nom sumérien de ce genre est abrégé et que le nom complet comporte le nom du roi par devant. Donc on peut supposer que ce personnage s'appelait Samsu-Iluna, Namtilani Idou, Samsu-Iluna. Sa vie est bonne. Alors, on a des personnages de ce nom qui sont documentés à l'époque de Hammurabi dans les archives de Sinidinam et de Shamashrazir, auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, mais on n'est pas sûr qu'il s'agisse du même individu, puisque ce type de nom propre peut être porté par des fonctionnaires, hauts fonctionnaires de générations différentes. Viennent ensuite Sagil Mansoum et Ea Retsouchou, tous les deux qualifiés avec le titre de Ougoula Chou-I, donc chef des barbiers. Alors, le nom du premier renvoie au grand temple de Babylone, et Sagil, abrégé ici en Sagil. Quant au nom du second, eh bien, il signifie le dieu Ea est son aide, et là encore, le possessif renvoie au souverain. On sait à quel point les barbiers du roi jouissaient de la confiance du souverain, puisqu'ils pouvaient approcher de celui-ci le rasoir à la main. Donc, on laisse pas n'importe qui faire ça. Et si j'osais, je dirais que les barbiers de jadis sont devenus les barbouzes d'aujourd'hui, mais je sens que je me laisse entraîner sur un terrain glissant. Et je reviens donc rapidement à ma liste de témoins. On trouve ensuite un intendant du palais qui porte lui aussi le titre de Chandabakoum, qui s'appelle Damik Marduk. Et la liste se termine avec deux ministres Shukaloum, respectivement Adad Ili et Hadanshu Likshud. Le nom de ce dernier signifie « Puisse-t-il atteindre son but ?» Et là encore, c'est un vœu que l'on fait envers la personne du roi. L'ordre d'énumération des témoins est-il protocolaire ? Eh bien, j'aurais tendance à dire que sans doute pas, parce que personnellement, j'aurais mis les ministres Shukaloum beaucoup plus haut dans la liste, avant le ministre de l'économie, par exemple, ou avant l'intendant du palais. Donc, on peut penser que le scribe qui a rédigé cette liste de témoins ne doit pas être considéré comme nous ayant donné ces témoins en ordre hiérarchique. Et la deuxième moitié de la liste des témoins, que je ne vous ai pas lue, eh bien, elle correspond à des autorités locales de Sippar, et donc c'est la partie qui est en relation avec la religieuse Naditoum qui achète le champ. Donc je ne commenterai pas cela, mais c'est cette deuxième partie qui a permis de situer le texte chronologiquement. Il se trouve qu'on possède un texte analogue où le roi vend une terre lui appartenant à l'époque du fils de Samsu-Iluna, Abiyeshur. Et ce texte, c'était 45-121, et on y voit deux personnages qui peuvent retenir notre attention. D'abord, on voit que le Chandabakoum Nabiyum Malik a été remplacé au même poste par son fils Marduk Mushalim, Et ça, c'est bien intéressant, puisqu'on voit que dans certains cas, il y avait une transmission héréditaire des charges les plus hautes du royaume. Et par ailleurs, on voit dans CT 45-121 un témoin, Marduk Mushalim, qui est Chandabakoum, donc ministre de l'économie, et il est fils de Esagil Mansoum, c'est-à-dire vraisemblablement du chef barbier du texte que nous venons de voir. Par conséquent, ici, ce n'est pas exactement transmission héréditaire de charges, mais enfin, on voit que les hauts dignitaires sont recrutés dans un milieu très restreint. Pas s'ils avaient fait l'ENA, il semble que là, ce soit plutôt l'appartenance familiale qui, à l'époque, jouait un rôle important. Voilà donc ce qu'on peut dire sur l'entourage de Samsu-iluna et sur l'onomastique porté par ses hauts dignitaires. Je passe maintenant à l'examen des noms d'années. En effet, à l'époque paléo-babylonienne, le système de datation avec les noms d'années qui commémore les hauts faits du roi se révèle généralement une source très intéressante. D'abord parce qu'il est souvent possible de mettre ces noms d'années en rapport avec des inscriptions commémoratives qui développent la même thématique. Malheureusement, pour les 8 premières années de Samsu-iluna, ça n'est pas le cas. Et puis, par ailleurs, parce que souvent, on a des événements politico-militaires qui sont commémorés, et là encore, ça n'est pas le cas pour le début du règne de Samsu-iluna. La séquence va concerner tour à tour trois thématiques. D'abord, la justice. Ensuite, le creusement de canaux et, pour finir, des offrandes aux divinités dans leur temple. Premier thème, la justice. On l'a déjà abordé la semaine dernière. Donc, le nom de l'an 1, je vous le rappelle, c'est année où Samsu-iluna, le roi, sur l'ordre fiable de Marduk, a fait se manifester son principat sur les pays et où il a fait aller droit le peuple de Sumer et d'Akkad. Le verbe de la fin de l'expression, en sumérien « si-sa-deux », qui est l'équivalent de l'acadien « echerum », d'où dérive « micharum », eh bien, nous montre que cette expression désigne la promulgation de l'édit par le roi. Et l'image, ici sous-entendue, mais qui parfois est explicite, c'est celle du roi qui dirige son troupeau. Et on dit que le roi fait aller droit le peuple, c'est-à-dire qu'il évite que les bêtes n'aillent à droite et à gauche et ne finissent par se perdre. La réalité sociale correspondant à cette image, en fait, c'est la fuite des débiteurs insolvables. En remettant les dettes, le roi fait en sorte que les gens qui, éventuellement, avaient quitté leur ville pour éviter de tomber sous la griffe de leurs créanciers, eh bien, puissent retourner chez eux. Et nous avons des exemples, on en reparlera plus tard, très précis de ce genre. Et donc on voit que la Micharum, qui eut lieu à l'avènement de Samsu-iluna et qu'on a commenté la semaine dernière, a été indirectement commentée par cette expression du nom de la première année. La deuxième année de Samsu-iluna a une thématique équivalente, mais une formulation différente. Année où Samsu-iluna, le roi, qui obéit au grand dieu, a instauré l'Andurarum dans Sumer et Akkad, a provoqué la joie dans le pays et a fait paraître la justice Micharum. Alors vous me direz, en remettant les dettes, le roi ne fait pas que des heureux. Il est vrai que les créanciers qui ne sont pas remboursés peuvent faire grise mine, mais il est bien évident que vous faites beaucoup plus d'heureux en remettant les dettes que de malheureux, parce que la proportion entre créanciers et débiteurs est évidemment pas du tout la même. Et là, je m'abstiens de faire des commentaires sur la remise des de la taxe d'habitation, parce que sinon vous allez trouver que j'exagère avec ce type de clin d'œil anachronique, mais enfin, c'est un fait que ça fait 80% des gens qui devraient être heureux, nous dit-on, en ce moment, à la fin du mois. Ce thème de l'Andurarum, donc, c'est le retour au statut antérieur, ce que le sumérien exprime par le mot « ama-argi », littéralement le retour à la mère, la maman, hein, parce que le mot ama désigne la mère, mais désigne aussi, d'une manière plus générale, en sumérien, de façon figurée, le point de départ. On nous dit, par exemple, que les jours passent, les mois passent, et l'année revient à son ama, son point de départ. Et ici, eh bien, c'est le retour au statut antérieur. On aura tout à l'heure l'occasion de commenter cela plus en détail. Et donc, on voit que l'an 2, le nom de l'an 2 de Samsununa continue à commémorer une mesure qui, en réalité, a été prise dès son avènement. On passe ensuite à une thématique de type agricole, avec deux noms d'année qui célèbrent les travaux hydrauliques de Samsu-iluna et que j'étudierai à la lumière d'un article que j'ai écrit il y a quelques années. Le nom de l'an 3 est le suivant, année où le roi Samsu-iluna creusa le canal nommé Samsu-iluna Nagab-Nurshi, un canal qui depuis longtemps avait été négligé, faisant sortir à l'intérieur du pays de vastes surfaces cultivables et sortant des pays étrangers. Alors la fin de la formule qui décrit le canal comme sortant des pays étrangers n'est pas claire, elle se trouve dans aucun document de la pratique, mais seulement dans une liste, et je ne passerai pas davantage de temps à commenter cela. Ce qu'il faut souligner, c'est que, de manière générale, les canaux en Mésopotamie, comme les murailles des villes, comme les temples, portaient des noms propres. Et on en a ici un bel exemple. Le nom akkadien du canal Samsu-iluna Nagab-Nurshi, signifiant « Samsu-iluna est la source de l'abondance pour le peuple ». Et en effet, en creusant un canal, eh bien, le roi permet qu'il y ait davantage d'eau pour l'irrigation et donc des moissons plus abondantes. Alors le problème que nous avons, c'est que Sumérien comme Akkadien ne distingue jamais clairement des actes comme bâtir et rebâtir, creuser ou recreuser. Mais la formulation sur le fait que le canal a été depuis longtemps négligé montre bien qu'il s'agit ici du recreusement d'un canal préexistant qui s'est manifestement peu à peu envasé, faute d'entretien. Mais notre difficulté, c'est que le canal a reçu un nouveau nom et donc nous ne pouvons pas savoir de quel canal antérieur il s'agit. Et c'est dommage parce qu'il y a des rois qui ont trouvé des formules qui sont meilleures. Par exemple, Rimsin, dans le nom de sa 22e année, a commémoré ses travaux d'irrigation de la manière suivante. Année où, sur l'ordre des dieux An, Enlil et Enki, le pasteur fiable Rimsin recreusa un canal dont le nom était oublié depuis longtemps et le nomma canal pur, ajoutant de larges surfaces de terres cultivables à ses localités riveraines. Donc là, on nous dit bien que le canal a changé de nom, même si on ne nous donne pas le nom ancien du canal. Alors, dans le cas de Samsu-iluna, eh bien, nous savons que le canal qu'il a ainsi remis en état a continué son existence par la suite parce que le nom de l'an 11 d'Amitsaduka, donc arrière-petit-fils de Samsu-iluna, mentionne ce canal. Année où Amitsaduka, grâce à la grande sagesse que Marduk, son seigneur, lui a attribuée, a construit Dur Amitsaduka, grande forteresse semblable à une montagne, sur la rive du canal Samsu-iluna Nagab-Nurshi, sur la plus haute rive à la prise d'eau sur l'Euphrate. Alors, ce nom d'année a un double intérêt, nous montrer que le canal a ensuite été entretenu correctement puisqu'il était encore en usage des générations plus tard, d'une part, et d'autre part, on voit qu'il s'agissait d'un canal de dérivation de l'Euphrate. Malheureusement, ni Samsu-iluna ni Amitsaduka ne nous disent à quel endroit se situait la prise d'eau de ce canal, donc on a une difficulté pour le situer sur la carte. L'idée développée par Samsu-iluna, c'est que cet ouvrage a permis d'augmenter les surfaces agricoles grâce à l'irrigation. Et là encore, c'est une thématique que l'on trouvait déjà développée dans certains noms d'années du roi de Lhasa, Rimsin. Par exemple, dans le nom de son année 23, « Année où le pasteur fiable Rimsin recreusa l'Euphrate, de l'Arsa jusqu'à la mer, rendant cultivables de grands secteurs sur ses rives et procurant une eau permanente à Our. L'année d'après, année où le pasteur fiable Rimsin creusa un canal double, procurant de l'eau potable à une population nombreuse et transformant leur territoire en surface cultivable. Et encore, le nom de l'an 27, année où Rimsin creusa jusqu'à la mer en un cours d'eau permanent, le canal Gunundi, donc c'est un nom propre qui signifie canal au grondement sonore, canal qui n'avait pas été dragué depuis longtemps, qui était couvert de roseaux et qui était dépourvu de champs permanents, et il rendit cultivable de larges secteurs sur ses rives. » Alors, si vous comparez ces trois descriptions très détaillées avec celles que nous avons dans le nom de l'an 3 de Samsu-iluna, eh bien, on peut dire que les noms d'années de Rimsin sont nettement plus riches en détails. J'aurais personnellement une explication à proposer pour ce phénomène, c'est que peut-être bien qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, dans l'entourage de Samsu-iluna, de scribes qui connut le sumérien aussi bien que c'était le cas dans l'entourage de Rimsin à Larsa quelques décennies plus tôt. Nous reviendrons sur ces questions culturelles dans 15 jours. Toujours dans la thématique du creusement des canaux, le nom de l'an 4, année où Samsu-iluna, le roi, creusa le canal de la steppe nommé Samsu-iluna apporte la prospérité, donc Samsu-iluna régale. Ce canal de la steppe, il était déjà connu dans le nom de l'an 6 de Rimsin, et on est donc sûr, cette fois, que l'opération concerne la partie méridionale du royaume, c'est-à-dire l'ancien royaume de Larsa. On passe maintenant à la troisième thématique, celle des offrandes aux dieux, et on retrouve le nom de l'année 5 de Samsu-iluna. Année où Samsu-iluna, le roi, fit faire un trône en offrande à Nana, sa divinité personnelle, et où il l'installa dans l'Ekishnugal, son temple pur. Alors je vais ici commenter à nouveau ce nom d'année que j'avais déjà commenté l'année dernière pour ceux d'entre vous qui étaient présents. Donc la première question qui se pose, c'est de savoir dans quelle ville a été faite cette offrande. On pense tout de suite à Our, puisque le temple de Nana s'appelait les Kishnugal, et c'est ce qu'avait supposé Marc van der Mierop dans son livre sur Our en 1992. Mais il existait un autre temple voué au dieu Nana, également nommé Ekishnugal, dans la capitale Babylone, et qui est notamment attesté par le nom de l'an 3 d'Amourabi. Et donc Andrew George, dans son livre sur les temples, qui date de 1993, a opté, lui, pour une offrande dans l'Ekishnugal de Babylone, et jusqu'en 2017, eh bien, il était impossible de trancher. Par ailleurs, la question est de savoir si, lorsque Samsu-iluna nous dit qu'il installe ce trône dans les Kishnugal, il n'a pas recours à une formule de style « Caesar pontem fecit », donc est-ce que ça veut dire « j'ai installé » ou bien « j'ai donné l'ordre d'installer » On pouvait se poser la question. Eh bien, depuis l'année dernière, vous savez que les choses sont désormais claires. Le roi de Babylone est venu en personne offrir le trône voué au dieu principal d'Our. Et ce sont les archives découvertes dans la maison du général babylonien Abissoum au printemps 2017 qui nous l'ont montré, puisqu'on a trouvé deux comptes de poissons qui datent du début de l'année 5 et qui mentionnent des dépenses de poissons pour le repas du roi. Ça veut donc dire que Samsu-iluna était là, et ça confirme donc que l'Ekishnugal, dont il est question dans le nom de l'an 5, c'est bien celui d'Our. Alors pourquoi est-ce que Samsu-iluna est venu en personne à Our? Eh bien, on peut penser que le but de ce voyage était de renforcer le lien de l'ancien royaume de Larsa, annexé par son père au royaume de Babylone. On ne connaît pas le détail de ce voyage, ni toutes ses étapes. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que le nom d'année met l'accent sur la ville d'Our et pas sur l'ancienne capitale Larsa. comme si Samsu Iluna avait voulu donner plus d'importance à la métropole religieuse du Sud plutôt qu'à l'ancienne capitale de Rimsin. Et puis Samsu Iluna donc n'est pas venu les mains vides. Son voyage avait manifestement pour but d'offrir en personne un trône au dieu Lune. On n'en a pas de description et on peut simplement se représenter ce trône à l'image de ce qu'on trouve sur la stèle d'Urnammu, qui est antérieure de 3 siècles, mais on sait à quel point on a un grand conservatisme dans ces matières. Par ailleurs, la question des trônes offerts aux divinités pour l'époque paléo-babylonienne, d'après les textes, a été étudiée, d'après des textes de Marie, par Michael Guichard et par Ilya Archipov, dans 2 articles, l'un paru récemment et l'autre à paraître. Alors, je vous rappelle aussi que, puisqu'on sait que Samsu Iluna est venu à Ur en l'an 5, eh bien, on peut penser qu'il s'est également déplacé jusque dans la ville d'Eridu. On possède en effet un hymne à Samsu Iluna qui est rythmé par la formule « Ô Samsu Iluna, mon roi », dans lequel le dieu Enki, donc la divinité principale d'Eridu, et des divinités de son entourage occupent une place très importante. Et donc, j'avais proposé que ce texte ait pu être composé à l'occasion d'une visite du roi de Babylone au sanctuaire d'Eridu voué à Enki. Eh bien, désormais, on peut penser que cette visite ait pu avoir lieu au début de l'an 5 de Samsu Iluna, puisque la distance entre Ur et Eridu est très faible, et donc il était bien évident que pour le roi de prolonger ses dévotions au dieu Lune par une visite au dieu des eaux souterraines et de la sagesse à Eridu était quelque chose qui ne posait guère de problème. On passe maintenant à l'an 6, année où Samsu Iluna, le roi, pour les dieux Shamash et Marduk, qui avaient exprimé le désir d'objets manufacturés, fit entrer dans les Babar devant Shamash et dans les Sagil devant Marduk et installa sur leur socle des statues de divinités protectrices en prière et en or, proclamant la justice. Là encore, la fin du texte n'est pas tout à fait sûre, peu importe. Question préliminaire, c'est comment est-ce qu'un dieu peut exprimer le désir d'une offrande ? Eh bien, par un présage fortuit, comme une éclipse, par exemple, que les devins devaient ensuite interpréter par le moyen de l'hépatoscopie. Donc, on demandait au dieu quel genre d'offrande il voulait, et on avait une réponse par oui ou par non qui permettait petit à petit d'affiner les choses. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est le parallèle entre le temple de Shamash et Babar et le temple de Marduk, les Sagil. Dans le second cas, il ne peut s'agir que de la ville de Babylone, et le parallélisme conduit à penser que les Babar dont il est ici question est plutôt celui de Sippar que celui de Larsa. Et la formule est généralement abrégée sur les documents en « année des statues de divinités protectrices ». L'année 7 est également dévolue à la commémoration d'une offrande. Cette fois, Samsu Iluna a offert à Marduk une arme, sublime emblème brillant en or et en argent plaqué d'or rouge, digne du temple, et il l'a fait scintiller dans les Sagil comme une étoile du firmament. Donc une comparaison littéraire qui met l'accent sur le revêtement en métaux précieux dont cette arme a été parée. Et je vais jusque en l'an 8, puisque un nom d'année commémore une offrande qui s'est faite l'année d'avant, donc dans le courant de l'an 7. On reste toujours dans la thématique des offrandes religieuses, année où le roi Samsu Iluna installa dans l'Eturkalamma, temple sublime, devant les dieux An et Inanna, un objet d'émerveillement, un socle pour une statue royale décorée de montagnes et de fleuves, apportant prospérité et abondance. Alors, l'Eturkalamma était le nom du temple de Inanna à Babylone, où elle résidait avec son père, le dieu An. On n'a pas retrouvé cet objet, mais on a un certain nombre de bas-reliefs ou sur lesquels on a des représentations de montagnes avec des écailles et de cours d'eau avec des flots jaillissants qui nous permettent de nous faire une idée de ce à quoi ce socle pouvait ressembler. On voit donc que Samsou Iluna, après avoir célébré dans les noms de ses années 3 et 4 des travaux d'irrigation, consacra les noms des quatre années suivantes à commémorer des offrandes à des divinités. Ces offrandes entrèrent dans des temples du cœur du royaume, avant tout la capitale, Babylone, mais aussi Sippar et une seule fois une ville du sud, Ur. Alors ces offrandes ne semblent pas avoir été rendues possibles par du butin, puisque, pour autant que nous le sachions, Samsou Iluna ne semble pas avoir organisé de campagne militaire d'envergure à l'extérieur de son royaume pendant toutes ces années, mais c'est simplement parce qu'il n'a pas jugé ses éventuelles expéditions d'être commémorées dans des noms d'années. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que ces offrandes somptueuses montrent la prospérité du royaume qui dégageait suffisamment de surplus pour que les dieux en aient leur part. Eh bien, on va voir que la réalité semble avoir été nettement moins brillante que l'impression qu'on pourrait retirer de ces noms d'années. Il semble bien que derrière cette façade, en effet, le royaume ait connu une sévère crise économique que Samsou Iluna a tenté de juguler en proclamant une deuxième Micharoum au début de sa huitième année. Quels sont les signes de cette crise économique ? Eh bien, tout simplement le fait que les arriérés ont recommencé à s'accumuler pratiquement dès le lendemain de la Micharoum de son avènement. On le voit en particulier dans les archives des responsables de palmeraies dans la région du Yarurum Chaploum, dont j'ai parlé dans le cours d'introduction. On possède un certain nombre de grands comptes récapitulatifs, comme YOS 12-101. Dans ce tableau à quatre colonnes, eh bien, figurent dans la première colonne les apports de dates. Dans la deuxième colonne, les apports d'argent, donc les redevances versées par les responsables des palmeraies. Et puis la troisième colonne nous donne le reste à payer. Donc les deux premiers apports sont effectués pour l'année 3 de Samsou Iluna. Il y a un arriéré et la dernière colonne nous donne le nom des cultivateurs pour chaque ligne. Or, il se trouve que pour quatre des personnages qui sont mentionnés dans cette liste, nous possédons le texte postérieur qui enregistre la livraison de l'arriéré dû par ces jardiniers débiteurs. Et on voit que, alors que dans cette tablette, les apports ont été effectués au mois 2 de l'année 3 de Samsou Iluna, les arriérés ne sont réglés que des années plus tard. Dans trois cas, au mois 2 de l'année 5 de Samsou Iluna et dans un cas au mois 3 de l'année 6. C'est donc manifestement le signe d'une économie en difficulté puisque les arriérés s'accumulaient dès la troisième année suivant la proclamation de la Micharoum mais que les gens n'ont été capables de les régler qu'avec deux ou trois ans de retard. Et on voit clairement la faiblesse du système au moment d'une Micharoum. La remise des arriérés par le roi revenait à mettre les compteurs à zéro, mais ne changeait pas les règles du jeu. Et donc, les mêmes causes produisaient les mêmes effets. Les rois ne semblent pas avoir compris que des remises ponctuelles ne suffisaient pas et qu'il aurait fallu ce que nous appelons des réformes structurelles. Alors, pourquoi est-ce que les jardiniers éprouvaient de telles difficultés à régler leurs dûs ? Eh bien, on peut penser que les problèmes d'irrigation n'ont pas été réglés malgré les travaux hydrauliques auxquels Samsou Iluna semble s'être livré. Et donc, l'insuffisance d'eau aurait entraîné des rendements moindres qu'escomptés, d'où l'accumulation de ces arriérés. Alors, on n'a pas de documents équivalents pour les autres catégorie de travailleurs qui exploitaient le domaine royal, les gens qui étaient chargés des champs d'orge ou encore les bergers, mais il n'y a pas de raison de penser que la situation des palmeraies constituait une exception. Et donc, Samsou Iluna a été contraint de proclamer une deuxième Micharoum. Celle-ci n'apparaît pas dans ses noms d'années, mais C'est par la suite qu'on voit des exemples de rois qui commémorent une autre Micharum que celle de leur avènement. Par exemple, Amiditana a commémoré dans le nom de l'an 1 la Micharum de son avènement, mais on retrouve dans le nom de l'année 21 la formule « année où le roi Amiditana, le grand seigneur redouté, bien-aimé du dieu Shamash, remit les dettes que son pays avait contractées », donc clairement une allusion à une Micharum. Ici, l'an 9 de Samsu-iluna ne commémore pas du tout la proclamation d'une Micharum. Elle est formulée ainsi. « Année où le roi Samsu-iluna arracha les fondations de l'armée Kassite. » Et puis, dans la formule, on a deux termes sumériens qui calent, qui posent problème. On y reviendra quand on reparlera la semaine prochaine de cette invasion de Kassite. Donc, un nom d'année qui commémore une action militaire de Samsu-iluna, mais pas la proclamation de sa deuxième Micharum. Alors comment est-ce qu'on en connaît l'existence ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a retrouvé deux fragments de où était recopié l'édit qu'il prit à ce moment-là. Ce ne sont que des fragments, et c'est la comparaison avec l'édit d'Amit Saduka, beaucoup mieux conservé, qui a permis aux éditeurs de ces textes de comprendre à quel document ils avaient affaire. Alors, l'édit d'Amit Saduka, lui, il est connu par des tablettes quasiment complètes. La plus anciennement publiée, c'est une grande tablette du musée d'Istanbul, publiée par Krauss en 1958. Et puis, quelques années plus tard, Finkelstein a trouvé une autre tablette au British Museum qui complétait les lacunes de l'exemplaire d'Istanbul. Et donc, on a un texte qui est maintenant quasiment complet et qui a été réédité par Krauss en 1984. Et puis, il y a un autre texte, ce qu'on a appelé pendant longtemps l'édit de X, qui a été en fait le premier texte de ce genre connu, et dont maintenant il est sûr qu'il s'agit d'un édit d'Amiditana, le père d'Amit Saduka. La redécouverte de l'édit de Samsu-iluna s'est passée en deux phases. La première remonte à 1965. Krauss a publié dans les Mélanges Landsberger un fragment d'une petite tablette issue des fouilles du Père Scheil à Sipar en 1894. La face de la tablette comportait une date, à savoir le mois 3 de l'année 8 de Samsu-iluna, puis ce qui correspond à l'an 1 de l'édit d'Amit Saduka. Les arriérés des cultivateurs, des bergers, des équarisseurs, des gens travaillant dans les estives et des autres tributaires du palais, du fait que le roi a édité une Micharum, sont remis. Le collecteur Mouchadinoum ne devra pas engager de poursuite contre la maison d'un tributaire. Et au revers du fragment, on a un texte qui est parallèle à l'an 21 de Amit Saduka, est vendu, ou bien est placé en gage Kishatoum, ou en gage Manzazanum, son Andurarum ne sera pas effectué. Donc je ne commente pas ce texte, on va y revenir avec le second fragment. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la problématique de Krauss s'était focalisée sur le fait qu'on avait une deuxième Micharum en an 8 de Samsu-iluna, et donc la question était de savoir si on retrouvait un rythme équivalent à celui de la Shemitah biblique tous les 7 ans. Je ne développe pas aujourd'hui, on y reviendra dans quelques semaines lorsqu'on étudiera les autres Micharum de Samsu-iluna. Le deuxième fragment, 30 ans après la publication de Krauss, a été édité par Hallo dans les Mélanges Greenfield. C'est un texte qui est issu de la Nice Babylonian Collection à Yale. Un tout petit fragment dont seul le revers est partiellement conservé. On a 40 signes seulement qui sont conservés, mais l'attention de Hallo a été attirée par l'avant-dernière ligne où on pouvait facilement déchiffrer le mot « Andurarum ». Et donc, tout de suite, ça l'a intéressé. Et il a rapidement compris qu'on pouvait restaurer le texte grâce au paragraphe H de l'édit d'Amiditana, l'édit de X, comme il disait encore à l'époque, et au paragraphe 21 de l'édit d'Amit Saduka. Le texte donne ceci. Donc j'ai mis entre crochets dans la traduction ce qui correspond au passage cassé. Si un ou une esclave née à la maison, will it be team, appartenant à un ressortissant des régions du Numria, d'Emut Balum, d'Idamaratz, ou des villes d'Uruk, Issin, Kisura ou Malgium, ou un ressortissant du pays, si donc un ou une esclave est vendu pour un prix complet, ou bien est placé en gage Kishatum ou en gage Manzazanum, son androarum ne sera pas effectué. Autrement dit, cet esclave ne retournera pas chez son premier maître. Et ce paragraphe contraste avec le précédent qui indique que lorsque un ressortissant de ces mêmes villes et régions a dû se vendre lui-même comme esclave ou vendre quelqu'un de sa famille, eh bien, il retournera à son statut d'origine, c'est-à-dire que son androarum sera effectué. Donc, si c'est la personne elle-même ou les membres de sa famille qui ont été vendus comme esclaves pour éteindre des dettes, ils retrouvent leur statut d'origine de liberté, mais s'ils ont dû vendre un esclave leur appartenant, alors l'esclave reste au nouvel acquéreur. Ce qui est ici important, c'est qu'on a ici clairement la fin du texte qui est marquée par une double ligne. Autrement dit, l'édit de Samsu-iluna semble finir avec le paragraphe 21, donc le même que celui de son petit-fils Amiditana ou de son arrière-petit-fils Amitsaduka. Autrement dit, le texte des édits de Misharum était déjà fixé sous Samsu-iluna. C'est une conclusion que l'on peut retirer de ce petit fragment. Contrairement au fragment d'Istanbul, le fragment de Yale n'a pas conservé la date, puisque la date devait se trouver au début de la face, qui n'est pas conservée. Alors, pourquoi est-ce que Hallo a proposé de dater ce texte de l'an 8 de Samsu-iluna ? Eh bien, parce que son numéro d'inventaire le situe à l'intérieur d'un lot qui provient de l'Agaba, et dans ce lot, eh bien, il y a des tablettes qui sont exclusivement situées entre les années 4 et 8 de Samsu-iluna. Donc, ça permet indirectement de dater ce fragment. Que cet édit ait été appliqué est prouvé par les traces qu'il a laissées dans les archives de nombreux créanciers. Et le même phénomène que nous avons déjà constaté pour la Misharum de l'avènement de Samsu-iluna se retrouve encore plus fortement perceptible. De nombreux lots d'archives comportent des créances qui datent des mois précédant la proclamation de la Misharum, créances donc qui ont de ce fait été annulées par le roi. J'avais réuni de nombreux cas dans mon étude de 2000. J'ai donné des compléments en 2005, Guido Surmayer l'année d'après. Et voici donc quelques tableaux qui vont vous montrer l'importance du phénomène. Dans les archives d'un personnage qui s'appelle Awilia, eh bien, on voit qu'on a un grand nombre de créances qui datent de l'année 7 ou du début de l'année 8 de Samsu-iluna. Ce qui est très frappant, c'est le faible montant des emprunts à chaque fois. Le premier, par exemple, 30 quarts de sésame, ça fait à peu près 30 litres, c'est-à-dire de quoi tirer 3 litres d'huile. Donc on voit quelqu'un qui est contraint de faire ce type d'emprunt, et qu'on emprunte du sésame au mois 3, ça s'explique puisque la récolte du sésame se fait à l'automne et non pas au printemps, donc le personnage en question était déjà à court d'huile. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'avait manifestement pas de quoi l'acheter alors qu'on est juste après la récolte du grain. Donc voilà quelqu'un qui est vraiment pris à la gorge. Et si vous regardez, encore un autre exemple, hein, 44 sésames, c'est 44 litres, c'est pas beaucoup plus, hein, encore à nouveau 30 cas, ça fait très peu. Deuxième remarque, eh bien, on a plusieurs contrats, les plus récents, qui comportent une clause que j'ai résumée sous la forme clause Ezoub. Ça veut dire, nonobstant sa tablette antérieure. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de personnes qui ont déjà emprunté précédemment au même créancier et qui n'ont pas encore remboursé la première dette. Donc on voit bien un phénomène de surendettement. Les gens ont déjà emprunté une première fois, n'ont pas pu rembourser et sont obligés d'emprunter à nouveau. Alors, voilà pour Aouilia, mais on a des dossiers un peu moins fournis, mais presque autant, pour d'autres personnages, comme ce Nabissin, par exemple, Sinim Gourani, Sinousselli, Sin Tillassou. Donc, tout ceci, ce sont la totalité des créances que nous avons pour ces personnages. Il n'y en a pas d'autres avant, il n'y en a pas d'autres après, et donc on a bien l'impression que ça correspond en effet à des créances qu'ils n'ont pas pu récupérer à cause de cette remise des dettes décidée par le roi au mois 3 de l'année 8. Alors on a deux dossiers un peu plus complet et pour lesquels on a l'avantage de savoir d'où ils viennent. S'il s'agit de la ville de Lagaba, dont j'ai déjà parlé, en Babylonie du Nord, pas très loin de Kuta, et un certain Ili ou Shamash, eh bien là encore, on retrouve dans ses archives une douzaine de créances. Ça va jusqu'à l'année 2, hein, puis on a une créance de l'année 6, et ensuite... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pour l'année 7, entre le mois 7 et le mois 11. Alors, ici, il s'agit de créances en bière. La bière était fabriquée avec de l'orge, donc au lieu d'emprunter la matière première, on emprunte directement le produit fini. Et je vous ai déjà dit à quel point la bière devait être considérée comme une denrée de première nécessité dans l'alimentation de cette époque. Donc ce n'est pas du luxe comme on pourrait dire au lieu de boire de la bière, il pourrait boire de l'eau. Non, hein, il s'agit vraiment de quelque chose qui contribue à la bonne alimentation et en même temps contribue également par sa valeur énergétique au bon état des personnes en question. On a un deuxième dossier, toujours de la Gaba, qui est celui des archives de Marduk Moubalit. Là, on voit qu'on remonte à l'année 5 avec deux créances, l'année 6 avec une, et puis ensuite, on a également des créances de l'année 7 et du début de l'année 8. Et on a encore quelques créances isolées par-ci, par-là. Alors, comment interpréter une telle accumulation de créances dans un nombre d'archives aussi important? Est-ce dû au facteur catastrophe? Est-ce le produit d'un tri dans les archives effectué par leurs propriétaires? Alors, on va voir que certains collègues ont donné ce type d'interprétation, mais que, personnellement, je pense qu'il faut les écarter et voir dans ce phénomène la preuve que la Micharoum a été réellement appliquée. En 2005, j'avais versé un nouveau cas au dossier dans ma recension d'un livre où ont été publiées les archives de la maison 11 du secteur U106 dans la ville de Sipar Yarourum. Dans cette maison, on a retrouvé une jarre et à l'intérieur de la jarre, on a retrouvé les archives d'une famille et en particulier les créances d'une femme qui s'appelle Rumti Haddad et de son frère Taribiya. On voit que ces créances datent essentiellement des années 6 et 7. Il y en a une qui remonte à l'an 4 et il y en a une qui date du début de l'année 8, mais le mois n'est pas conservé. Alors, ce qui est très intéressant dans le cas présent, c'est que contrairement à tout ce que je vous ai énuméré précédemment, ça ne provient pas de fouilles clandestines, mais ça a été retrouvé lors de fouilles régulières. Donc on a le contexte, une maison privée et, de façon précise, une jarre. Donc c'était bien des tablettes qui étaient conservées. Ce ne sont pas des choses qui ont été mises au rebut dans une fosse à l'extérieur de la maison, par exemple. Alors, Franz van Koppen, dans son commentaire de ce lot d'archives, a remarqué que à Sipar Yarourum, mais aussi à Dilbat, on avait plusieurs lots d'archives qui se terminaient en l'an 8 de Samsouilouna, et il a mis cela en rapport avec les événements militaires de l'époque, on en reparlera la semaine prochaine, et il a noté que la maison où ont été retrouvées ces créances de Rumti Haddad et de son frère comportait de fortes traces d'incendie. Alors, la question, c'est, dans ce cas, de savoir est-ce qu'on a affaire à un incendie qui a touché tout le quartier. À ce moment-là, son explication de nature militaire pourrait être meilleure, mais il ne faut jamais oublier, ce qu'on a tendance à faire, que dans l'Antiquité, il y avait aussi des incendies accidentels. Et donc, des traces de feu, ça ne signifie pas automatiquement une attaque ennemie. Par ailleurs, si je reviens aux grandes listes que je vous ai données précédemment, pour Awilia ou pour Nabissine, eh bien, quoique ces archives soient issues de fouilles clandestines, on peut éliminer dans leur cas l'explication par un facteur catastrophe, parce que les archives du Yarokroum Chaploum, elles continuent jusqu'à la fin du règne de Samsuiluna, et je vous ai dit qu'on sait maintenant qu'elles proviennent de la ville de Pikassi. Par conséquent, dans leur cas, l'explication par une attaque ennemie ne vaut pas. Deuxième explication a été proposée par Odette Tamouz à propos de la répartition des textes des archives de Marduk Moubalit à Lagaba. Il écrit ceci: « Les archives de Marduk Moubalit comportent de nombreux textes datés qui forment une base suffisante pour discuter les circonstances et le moment de son dépôt. Le terminus antequem pour le moment du dépôt, c'est l'an 8 de Samsuiluna, parce que les archives comportent des textes datés de cette année. » La plupart des textes sont de l'an 7 de Samsuiluna. Le fait qu'il y ait peu de textes de Samsuiluna 8 montre que ce segment de l'archive n'est pas le produit d'une catastrophe, mais un segment mort qui a été mis au rebut par Marduk Moubalit dans le cadre de sa pratique bureaucratique régulière. Donc le raisonnement est le suivant. Dans l'explication par une catastrophe, c'est en général la dernière année qui a le plus grand nombre de textes. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, on peut ajouter que la règle n'est pas aussi absolue que Odette Tamouz le croit, mais son interprétation, c'est qu'on a simplement affaire à un tri régulier des archives. Alors, c'est vrai que les archives de Marduk Moubalit ne contiennent pas que des créances, mais il faut dire que la date qui aurait été choisie par Marduk Moubalit pour faire le ménage me paraît difficilement liée à ce que Tamouz appelle ses habitudes bureaucratiques régulières, puisque justement le début de l'an 8 de Samsuiluna est marqué par la proclamation d'une Micharoum. Et donc, il me semble qu'il vaut bien mieux considérer qu'on a affaire à des créances annulées qui, malgré tout, ont été conservées par le personnage en question. Et cette conclusion me paraît confirmée par une lettre qui appartient aussi aux archives de Marduk Moubalit et qui apporte un éclairage extrêmement intéressant sur le phénomène que nous sommes en train d'étudier. « Dis à Marduk Moubalit, ainsi parle Sagil Mansoum, que Shamash et Marduk te fassent vivre, ouvrez en présence d'Apila le coffre des tablettes scellées qui est sous ma responsabilité. » La tablette scellée portant sur une mine et un cycle et demi d'argent et d'or de l'année statue en prière, c'est-à-dire l'année en 6 de Samsuiluna, de l'année arme emblème, donc l'année 7, et de l'année socle royal, c'est-à-dire l'an 8, soit de 3 années, reçues par un tel et un tel. Donc, ça veut dire une tablette de reçu, quel que soit le débiteur. Cette tablette, donc, qui a été livrée au Gouzaloum Mounawiroum pour qu'il fasse rembourser ses créances, ainsi est écrit, eh bien, cette tablette scellée, fait la moi porter à Babylone. Alors, on peut dire qu'on a une série de créances échelonnées sur 3 ans, c'est-à-dire les années 6, 7 et 8 de Samsuiluna, qui ont fait l'objet d'un accord avec certains Mounawiroum. Ce personnage, jouant plus ou moins le rôle d'huissier moderne, devait recevoir les créances et se charger de les recouvrer. Le total se montait à plus d'une mine d'argent, ce qui est une somme importante, et la transaction entre l'auteur de la lettre et ce Mounawiroum a fait l'objet d'un contrat en bonne et due forme. Et on possède d'ailleurs, dans d'autres contextes, de telles tablettes de récapitulatif de créances. Bien que la lettre ne le dise pas complètement explicitement, il est évident que, suite à la Micharoum du mois 3 de l'an 8 de Samsuiluna, l'affaire est annulée puisque les créances ont été annulées par le roi. Et ce que Sagil Mansoum demande, c'est que le contrat qu'il a conclu avec ce Mounawiroum lui parvienne à Babylone. Parmi les tablettes de la Gaba conservées à Yale figure une autre lettre qui présente cette fois l'intérêt considérable de faire explicitement allusion au texte de l'édit de Samsu Iluna. « Dis à l'homme que Marduk fait vivre, ainsi parle Awilsin, que Shamash et Marduk te fassent vivre. Le musicien Pouili a déposé en ces termes devant moi. J'ai donné mon champ à bail et il, c'est-à-dire l'exploitant, m'a donné 2 cycles d'argent en prêt. Il a rassemblé et emporté le grain qui se trouvait dans mon champ, mais ne m'a pas donné le loyer de mon champ. Voilà comment il a déposé devant moi. Comme tu le sais, suite à l'ordonnance de mon roi, celui qui a fait rembourser un prêt et l'a pris doit le rendre. Il est ordonné de ne pas poursuivre la maison d'un soldat, d'un pêcheur ou de toute autre personne accomplissant le service ilkoum du roi. » Et ceci, c'est une citation de l'édit, comme on le connaît par ailleurs et comme on l'a vu déjà dans la lettre de Samsu Iluna pour la Mishorum de l'an 1. « En voyant ma tablette, reprend l'auteur de la lettre, rends à son propriétaire le grain que tu as fait recouvrer et que tu as pris, ainsi que toi tu accomplis ce que prescrit l'édit de mon Seigneur, en son absence tu me prives de grain. » Donc le passage des lignes 15 à 20 que j'ai souligné dans la lettre, c'est une citation un peu libre de l'édit de Samsu Iluna. Alors on n'en possède pas... cette partie dans les 2 fragments que nous avons, mais on peut rapprocher ce passage du paramètre 15 de l'édit d'Amitsaduka. L'adresse de la lettre ne nomme pas le destinataire en utilisant une formule habituelle à l'époque paléo-babylonienne tardive, mais il est très vraisemblable qu'il s'agisse également du Marduk Mubalit que nous avons suivi jusqu'à présent. Donc la transaction qu'on peut reconstituer est la suivante. Ce Marduk Mubalit aurait prêté 2 cycles d'argent à un musicien nommé Pouili qui aurait donné en gage un chant. Et donc, vu l'allusion qui est faite aux soldats, aux pêcheurs et à toute autre personne accomplissant le service ilkoum du roi, eh bien, on peut dire qu'il y avait des musiciens qui étaient donc dans cette catégorie-là. Et par conséquent, en rétribution pour le service que ce musicien rendait au roi, il recevait un chant que nous décrivons dans notre terminologie actuelle comme un chant de subsistance dont il avait l'usufruit. Et au moment de la moisson, eh bien, Marduk Mubalit, qui cultivait le champ pour le compte de ce musicien, a emporté la totalité du champ qu'il avait cultivé. Alors, si on rapproche ce cas du code d'Amourabi, on pourrait dire que normalement, la procédure aurait dû être la suivante. Pouili aurait dû récupérer la totalité de la moisson, puis rembourser le prêt avec son intérêt et rembourser les frais de mise en culture du champ. Mais on peut penser que Marduk Mubalit s'est dit de toute façon, il ne lui serait rien resté et donc il s'est servi lui-même. Mais entre-temps, le roi a proclamé une Misharum. Et donc la dette de Pouili étant remise, le musicien n'était plus débiteur à l'égard de Marduk Mubalit, que des frais de mise en culture du champ, et donc c'est pour ça qu'il réclame. Alors cette lettre est intéressante parce qu'elle permet de comprendre pourquoi les contrats de louage de champ étaient indirectement affectés par les édits de Misharum, parce qu'ils étaient souvent accompagnés d'un prêt. Et les archives d'Awilia, que j'ai mentionné tout à l'heure, eh bien, comportent un texte de location de champ qui est daté du mois 2 de l'an 8 de Samsu Iluna, donc juste avant la proclamation de la Misharum. Et donc ça montre bien que là encore, comme les créances, c'est un texte qui a été annulé. Et à contrario, on a un texte qui est postérieur à la proclamation de la Misharum, qui date du mois 6 de l'an 8. Et sur la tranche, on a l'indication que le texte a été rédigé après l'édit, Warki Tsimdatim, sous-entendu. C'est quelque chose qui est après l'édit, donc qui n'est pas affecté, qui n'est pas annulé. Et donc, dans quelques mois, quand il y aura le moment de la moisson, eh bien, le cultivateur devra bien verser ce qu'il doit. On voit donc que Samsu Iluna, constatant les effets de la crise économique, tenta d'en atténuer les effets sur la population de son royaume en proclamant une Misharum à peine 8 ans après la première, mais cette mesure ne produisit pas les effets escomptés, car la Babylonie a été aussitôt après en butte à la fois à des révoltes intérieures et à une invasion extérieure. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci pour votre attention.